Merci. Bonjour, ici Arlette Farah et
Fulgence Blas.
Vous écoutez Regards croisés. Alors bonjour Fulgence.
Bonjour Arlette.
Tu vas bien ?
Je vais bien, oui, c'est lundi, mais je vais bien quand même.
Je vais bien parce que c'est lundi. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, je vais parler avec vous de yoga. Et puis, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter l'histoire de la grotte de Lascaux, voilà, en France. Et toi, Fulgence ?
Oui, d'abord, on a un invité en début d'émission, ce qui va notre chroniqueur sportif Stéphane Waffo, qui va nous parler un peu du sport. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sa voix sur les ondes de Canal M. Et puis, bon, ben, un peu plus tard, en deuxième heure d'émission, campagne pour piétons. Oui, Piéton Québec, qui nous revient avec une nouvelle campagne pour l'automne, là, bientôt.
D'accord.
Là, parce qu'il y a trop de morts, là, parmi les gens qui marchent tout le temps sur les trottoirs, ou bien qui traversent les rues.
Ok, voilà. Très bien. Eh bien, écoute, alors, je te laisse annoncer la chanson sur la, avec laquelle on va partir.
Parce la qu'il première y a une pièce musicale, histoire, oui, c'est avec... la jeune fille. Voilà, oui. Oui, je ne me trompe pas, la jeune fille qui répond au nom de Temilayo Abodamren, 10 ans saxophoniste de Lagos. C'est son premier single. Ayo, ça veut dire joy, ça dit la joie.
D'accord. Alors allons-y.
Thank you.
Ouais, on dit bravo à cette jeune fille de
10
ans.
Ah, vraiment, du talent.
Ah oui, parents, elle avait été inscrite par ses parents pour apprendre du piano. Mais son amour était beaucoup plus pour le saxo.
Elle a bien eu raison.
Ah, voilà. elle joue aussi la batterie, hein, la percussion. Mais le saxo, c'est son instrument favori.
D'accord. Ouais, mais ça s'entend.
Ses parents lui ont dit, bon, ben, tu fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas le piano, ben... elle s'est lancée dans le saxo. C'est son premier single, Ayo. Voilà. En novembre, là, elle aura 11 ans, bientôt. Novembre 2020.
Impressionnant.
Impressionnant, voilà. On dit bravo à cette petite-là. C'est tout nouveau, hein, c'est sorti hier, aujourd'hui, là.
C'est tout chaud.
C'est le Guardian qui m'a fait découvrir cette jeune fille, là. Voilà, là, Temi Layo. Voilà. Avant de passer à autre chose, on a notre chroniqueur sportif Stéphane Wafou qui est en onde. Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, bonjour Arlette.
Moi, je ne vais pas beaucoup te déranger parce que le sport, ce n'est pas trop mon...
C'est pas trop son dada, mais elle va t'écouter quand même.
Mais je vais t'écouter religieusement.
Voilà. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu vas nous concocter? De toute façon, c'est ta première visite à Brigade Croisée.
Merci de vous féliciter et de vous souhaiter une très belle saison.
Merci.
Mais merci.
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs sujets, notamment un des sujets qui a le plus retenu l'attention dans le monde du sport, c'est l'affaire Lionel Messi. Je ne sais pas si vous voulez, on peut commencer par ça, mais il y aura un petit peu de soccer.
Ça, j'en ai entendu parler.
Il part pas.
Pardon?
Il part pas.
Il part pas.
Voilà.
Grosso modo, si je résume un peu l'affaire, la Ligue des Champions finit.
Oui.
Et on apprend, c'est un peu la fin de l'été, que Lionel Messi a décidé de partir de Barcelone, son club de cœur. Il est là depuis 13 ans. Et là, c'est l'hécatombe dans le monde footballistique. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, il envoie un fax à la direction du club pour dire qu'il veut pas, non seulement, il veut partir, mais il veut partir tout de suite. Est-ce qu'on peut le libérer? Tout le monde se dit, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, évidemment, le président qui s'appelle Bartomeu lui dit, monsieur, vous pouvez pas partir parce que vous avez un contrat qui se termine en 2021.
Oui.
Et en plus, vous avez une clause dans votre contrat qui dit, si vous voulez partir, c'est pas grave, il faut que vous payiez 700 millions de dollars à la Ligue.
Ok.
$700 millions.
Ouais, il peut payer, mais si, c'est pas ça le problème.
Ah ben non, de toutes les façons, c'est pas lui qui veut payer. La rumeur court que l'idée c'était de racheter son compte, enfin de partir libre pour service rendu,
puis
d'aller faire quelques piges à Manchester City où il y a aussi un petit peu d'argent, avant d'arriver en Amérique du Nord.
Ok, pour terminer sa carrière en Amérique du Nord.
Terminer sa carrière, c'est une chose, mais c'est surtout, selon les mauvaises langues, pour payer moins d'impôts.
Ah.
Ça, il vient ici.
Ça paye beaucoup trop d'impôts à Barcelone.
Il faut quand même savoir quelque chose, c'est que Lionel Messi, plus de 700 buts en carrière, rémunéré à hauteur de 100 millions d'euros bruts par année, a eu un contrôle fiscal il y a quelques années et il a été condamné à 21 mois de prison.
Qu'il n'a pas fait.
Il n'a pas fait de prison, non.
Il n'a pas fait, mais 21 mois de prison quand même pour, on va dire, évasion fiscale.
Oui.
Donc, lui, il se dit, j'en ai marre un petit... Enfin,
il n'est pas le seul, ils le font tous, hein, Stéphane.
Oui, sauf que c'est Lionel Messi, 100 millions bruts, il trouve que, franchement, le peu d'argent qui lui revient, c'est peut-être pas assez.
Oui.
Et donc, il est en train de créer apparemment une espèce de montage financier où, aux États-Unis, notamment, il paierait pas d'impôts pendant quelques mois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais... Au-delà de ça, au-delà de cet aspect financier, ce qui a frustré beaucoup Messi, c'est un petit peu la direction de son club, qu'il apprécie beaucoup, parce que depuis 2014, où le président Josep Bartomeu est arrivé, le club catalan, c'est une grande histoire, plein de clubs, et depuis, il se dit que Messi est pas très content de comment ça s'est passé. Entre autres, ils ont perdu il y a quelques semaines une grosse défaite contre le Bayern, 8-2. Et essentiellement, on reproche l'entraîneur, les joueurs. Il a essayé de parler beaucoup à son équipe.
Moi, j'appelle pas ça une grosse défaite, c'est une claque, c'est une bérésina, ça.
Je voulais pas aller aussi loin. Mais 8-2, effectivement, c'est une claque, puis c'est pas la première claque. En 2018, ils se sont fait battre en quart de finale de la Ligue des Champions alors qu'ils avaient gagné au match aller. En 2019, pareil, ils avaient gagné au match aller 3-0 et ils se font bastonner, pareil, au retour 4-0 par Liverpool. au bout d'un moment, Messi qui a envie de gagner se dit ben, peut-être qu'avec Barcelone, je ne gagnerai plus.
Je comprends.
Effectivement, ouais. Apparemment, Bartomeu, que plusieurs sociaux, qui sont un peu les fans et les membres du club, estiment que le président a très, très, très mal géré les transferts, que ce soit Dembélé, que ce soit Antoine Griezmann, par exemple. Où on estime qu'il n'a pas pu faire revenir Neymar.
Ok, là, en fin de compte, il reste ou bien il ne reste pas? Il reste, non?
Finalement, puisqu'il se rend compte qu'il ne peut pas payer les 300 millions et qu'aucun club ne peut payer les 300 millions,
oui.
Alors finalement, il se dit « Oh, mais moi, je ne peux pas aller en bras de fer avec mon club de cœur, fait que je décide de rester. »
Ok, d'accord. Là, on va passer à un autre sport, là. Qu'est-ce que tu nous parles, là, de tennis ou bien d'autre chose?
Avant d'aller au tennis, je voulais quand même parler de la victoire de l'Impact hier. C'est quand même notre cop de la maison.
Oui.
Ils ont gagné 4-2 contre Vancouver, l'Impact de Montréal.
Bravo.
C'était à Vancouver.
Bravo à Thierry et à ses poulains.
Thierry Henry qui a... Bon, alors, on jugera l'entraîneur Thierry Henry à la fin de la saison.
Oui.
N'empêche que cette victoire lui permet de préserver ses chances de se qualifier en finale de la du championnat canadien.
On se le souhaite,
On se le souhaite, on espère que l'Impact pourra gagner face à Toronto, mais il faudra qu'il gagne pour arriver en finale du championnat canadien. Il va falloir qu'il gagne mercredi contre Toronto.
Oui.
Par au moins 1-0, puis là, on sera assuré qu'il puisse arriver en finale contre l'ennemi juré Toronto.
OK.
Donc ça, c'était pour parler un petit peu de soccer. Puis, évidemment, j'ai envie de vous parler un petit peu de tennis.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez vu l'image un peu qui a circulé sur les réseaux sociaux hier.
Oui.
L'image de cette jeune-là que vraiment tout le monde regarde. Enfin, moi, j'ai vu ça partir sur mon Facebook, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire?
Naomi Osaka.
Qui a remporté l'US Open.
Oui.
Là, elle avait avec une tenue, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je me suis dit, ah, c'est ma sœur camerounaise, c'est ma sœur congolaise, togolaise. Comment une joueuse japonaise s'habille comme
ouais,
ça?
Elle n'aime pas trop ça. Elle dit, selon ses déclarations, c'est oui, on la traite de japonaise, mais ouais, comme son père a voulu qu'elle joue pour le Japon, c'est ça. Elle est née là-bas, tout ça, quoi. Voilà. Et tu vois, on va finir ça. On va aller en musique, Stéphane. Oui. On va en musique.
D'accord.
Et puis on revient.
C'est fini.
Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler au loin les hirondelles. Mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Pour se dire au revoir, quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin, que ce temps couleur d'ombre. Je reste sur le quai, mon amour. À bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour peut-être un soir au détour d'un printemps. Quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain.
Septembre par Alexandre Tarot et Camilla Jordana.
Bonjour Stéphane.
Rebonjour.
Ah oui, on va terminer avec cette histoire de tennis là rapidement.
Avec Naomi Osaka, ben je voulais simplement vous dire qu'elle a triomphé donc pour la deuxième fois aux internationaux des États-Unis samedi en battant Victoria Azarenka. C'est son troisième titre après New York en 2018, puis Melbourne en 2019. Donc voilà, troisième titre majeur pour la jeune joueuse de 22 ans.
Ok, et Stéphane, je pense que tu n'as pas mis assez de temps comme ça pour nous revenir. Hein. Il faut que tu... Voilà, c'est pas 10 ans plus tard que tu vas nous revenir là pour du sport.
Ah ben non, justement, je reviens très vite.
Merci à toi.
Et merci d'avoir commencé avec le foot, c'est la seule chose que je suis.
Ah ben merci, allez, c'est au plaisir. Hein.
Au plaisir.
À bientôt.
Bye bye.
Ciao.
Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de méditation. Si je vous dis bouddhisme, hindouisme, taoïsme, islam ou christianisme, la méditation est présente dans de nombreuses pratiques spirituelles ou religieuses. Au cœur même du bouddhisme cohabitent les méditations qu'on appelle zen ou zazen, dans lesquelles on met juste l'intention, la posture, le mental, et vipassana, expérience de la vision pénétrante. J'ai toujours aimé ce terme. C'est décrit dans les premiers textes spirituels. Alors, la pratique, elle est employée aujourd'hui en thérapie, beaucoup doivent le savoir, à travers la méditation mindfulness, la méditation de pleine conscience. Il y a deux techniques avec ça. Il y a la technique qui est le MBSR, qui est la réduction du stress par la pleine conscience, et le MBCT, la thérapie cognitive par la pleine conscience. Qu'est-ce que signifie méditer ? Méditer, ça ne signifie pas ne penser à rien, ni faire le vide. Mais ça signifie d'accueillir et de laisser passer ses pensées sans s'attacher à aucune d'elles, sans se focaliser juste sur le moment présent qu'on est en train de vivre. En général, ça permet d'échapper à la préoccupation permanente du futur ou du passé, qui peut être associée à des émotions douloureuses, et ça aide à réguler nos émotions. Le souffle, dans ces situations-là, est essentiel. Poser sa respiration, ça aide à apaiser le mental et à se connecter plus facilement à l'instant présent. Les exercices consistent à maintenir son attention sur un objet, une sensation, ou au contraire l'élargir à tout ce qui nous entoure. La méditation, appelée compassionnelle, vise quant à elle à se concentrer plus particulièrement sur l'amour bienveillant que l'on est capable de ressentir pour les autres. Et en ce moment, c'est le moment ou jamais de le faire. Alors plusieurs études ont démontré l'impact de la méditation sur la douleur. En 2015, il y a des chercheurs qui ont demandé à 75 personnes d'évaluer leur perception après s'être fait brûler une petite zone de la peau à 49 degrés. Résultat, par rapport au groupe témoin, la sensation de douleur était réduite de 27%. Ce qui est quand même assez conséquent, chez les volontaires qui ont pratiqué la méditation pleine conscience. Et 11% chez ceux qui avaient fait une méditation qu'on pourrait appeler placebo, c'est-à-dire un simple exercice de relaxation. Donc déjà, ça fonctionnait. Par ailleurs, chez les personnes dépressives, la méditation MBCT, c'est-à-dire la thérapie cognitive par la pleine conscience, se révèle aussi efficace qu'un antidépresseur dans la prévention des récidives. Donc meilleur que des cachets qu'on avale. Plus généralement, la méditation de pleine conscience produirait les mêmes effets que les traitements de référence dans la gestion des troubles anxieux. En outre, sa pratique régulière modifie de façon significative l'activité cérébrale, avec un effet protecteur sur le cerveau. Elle développe la plasticité neuronale tout en augmentant l'épaisseur du tissu du cortex préfrontal gauche impliqué dans les processus cognitifs et émotionnels ainsi que dans les sentiments de bien-être. Cette pratique mentale ralentirait la diminution inéluctable avec l'âge du volume de l'encéphale, autrement dit l'espace occupé par notre matière grise qui contient les corps cellulaires des neurones. Donc c'est un atout contre le déclin cognitif. Qu'est-ce que le déclin cognitif ? Ben, les pertes de mémoire qu'on peut avoir. Des moments, on a des pertes de mémoire à court terme, c'est-à-dire qu'on se souvient de beaucoup de choses d'il y a longtemps et on oublie plus facilement ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Les difficultés à se concentrer. Et là, Fulgence ne me répond pas parce qu'il est lui-même en train de méditer. Non, il est endormi sur la méditation.
Non,
voilà.
Je t'écoute. Non, parce que je ne voulais pas te perturber. Non, si on revient là-dessus, cette histoire, les gens qui se sont fait brûler, et puis ceux qui ont vraiment médité, et puis ceux qui ont fait semblant de méditer,
il y a quand
qui
même
étaient en période de relaxation, quand même, ça a pu les aider.
Des avantages pour les deux.
Pour les deux.
Un petit peu moins pour ceux qui étaient seulement en relaxation.
Mais la partie où tu dis que ça peut même remplacer les antidépresseurs.
Non, ça c'est moi qui l'ai dit.
Ah, moi d'accord.
C'est moi qui l'ai dit, c'est pas écrit, ça c'est une revue scientifique, si on sait à venir. Moi je disais, du coup, étant un petit peu contre toutes les médications à haute dose, j'exagérais un peu, mais je me disais pourquoi pas commencer par du yoga avant de faire de la médication, quelle qu'elle soit, si jamais il y a des choses qui peuvent arriver, quoi,
s'arranger. Quoi.
Maintenant, un petit mot sur le cinéma. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé du film, si pour ceux qui nous ont suivis, Loin de Bachar, le film de Pascal Sanchez, qui va être au cinéma dès le 25 septembre. Donc, Loin de Bachar, je vous rappelle ce que c'est. Après avoir participé au soulèvement populaire contre Bachar el-Assad, Adnan Al-Mahmoud a dû fuir la Syrie avec Basma, sa femme, et leurs 4 enfants. Aujourd'hui établie à Montréal depuis plusieurs années, cette famille a ouvert ses portes au réalisateur Pascal Sanchez. S'ils ont pu s'acclimater relativement rapidement au cours paisible de la vie montréalaise, Adnan et Basma craignent toujours pour les proches dont ils sont sans nouvelles, évidemment, et qui sont restés en Syrie. Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent de la guerre, celle-ci ne les quitte pas. Elle surgit par bouffée au détour d'une conversation, d'un appel par Skype ou d'un fil Facebook. Loin de Bachar raconte le quotidien émouvant d'une famille aux prises avec les tourments d'un conflit dont malheureusement on ne voit pas la fin. Il faut savoir que Pascal Sanchez s'entretiendra avec la productrice exécutive de l'ONF, Nathalie Cloutier, lors de l'événement Les cinéastes racontent dans le cadre des Journées de la Culture 2020. C'est au cinéma dès le 25 septembre. Sachez que le mercredi 30 septembre à 17h à la Cinémathèque québécoise, la projection il y aura donc cet entretien le mercredi 30 septembre à 17h. Ensuite, il y aura la projection du documentaire à 18h30 et la rencontre, pour ceux qui ne peuvent pas être là, sera également accessible sur Facebook Live. Voilà. Les cinéastes racontent, c'est un cycle de rencontres donnant un accès exceptionnel au processus de création des réalisateurs, des réalisatrices et des réalisateurs qui collaborent avec le studio documentaire de l'ONF, Loin de Bachar. Voilà.
Tu te rappelles, la semaine passée, on avait, quand on parlait de la douleur que c'est les gens qui partaient comme ça en période dans des pays de guerre et qu'est-ce qu'ils ressentaient, tout ça, et cette histoire de penser aux autres qui sont restés sur place, ça revient dans ce film en question. Ouais.
Ça doit faire peur. Donc voilà, on part en musique, mais sachez que ce documentaire est là, alors Cinémathèque québécoise, à partir du 25 septembre.
C'est la semaine prochaine déjà.
Oui, déjà.
Thank you. blanc fleurit le grand rosier. Le ciel est bleu en bouquet éclatant. J'ai parcouru les forêts hors du temps, mais je ne l'ai jamais trouvé. Rien à perdre ou à gagner, rien à prendre ou à laisser. Oh mon enfance et tes espoirs géants, où sont passées tes roses en fleurs? Fané mon cœur, ton amour qui se meurt, ne reste plus que le rosier douleur. Fané mon cœur, ton amour qui se meurt, ne reste plus que le rosier douleur.
Rose douleur par Jean Leloup. Rosier douleur, pardon.
Rosier douleur, Jean Leloup. Merci. Alors, restez la à l'écoute. Chanson. Oui.
Dans la prochaine demi-heure.
Ouais. La prochaine.
Là, tu vas nous parler des piétons dans un instant.
Oui, bien organisé. Piétons Québec. Piétons Québec. Restez à l'écoute.
À tout de suite. Ouais.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Vous êtes déjà à l'écoute de Regards croisés. C'est la deuxième demi-heure de l'émission. Là, maintenant, on va aller en musique tout de suite avant ma petite chronique sur Piéton Québec avec le musicien, voilà, Toot Hibbert, la légende du reggae qui vient de nous quitter. C'était Toot and the Melters avec Living in the Ghetto.
Some of the rich men get their riches from the ghetto. As far as I can see, all the poorer ones that live in the ghetto, they put all their trust in vanity. And that's why the rich ones shall be richer, and the poor shall be poorer.
Ouais, ça c'était le grand Toot and the Maytals, Living in the Ghetto, Toot Hibbert, qui nous a quitté de son vrai nom, Frédéric Nathaniel Hibbert, qui nous a quitté le 12, c'est-à-dire il y a deux jours, aujourd'hui c'est le 14, le 12 septembre 2020. Voilà. Ouais, ça c'est triste. Ouais, monsieur qui a parcouru, j'ai eu la chance de le voir en spectacle sur scène en Europe à l'époque. Quand j'allais souvent au spectacle, il n'y avait pas de pandémie. Hein. Alors, avec son groupe Toot and the Maytals, il était l'un des premiers à avoir utilisé le mot reggae. Parce qu'il y avait plein de sa génération qui ne faisait que du ska. C'est-à-dire, c'est le reggae un peu plus rapide. Lui aussi, ils étaient très ska aussi. Voilà, ils sont le style même très ska reggae dans ce genre de. Alors, Toot and the Maytals, pour ceux qui veulent en savoir plus, sur YouTube, ils ont presque toutes les chansons là-bas. N'hésitez pas, c'est gratuit. Ou bien vous pouvez aller, si vous voulez les avoir dans votre sélection musicale personnelle, allez-y sur toutes les plateformes numériques, ça se paye. Voilà, c'est mieux comme ça. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. Voilà. Là, tout de suite, alerte, comme je l'avais annoncé en début d'émission, Piéton Québec. Et le site web, c'est piéton.québec. Vous allez avoir toutes les informations là-bas. Voilà, c'est quoi c'est Piéton Québec? C'est une organisation nationale d'intérêt public représentant les intérêts des piétons. Tout le monde est piéton. Qu'on ait une voiture ou bien un avion ou bien un bateau.
Oui, à un moment donné, on est piéton aussi.
À un moment donné, on est piéton aussi. On marche pour aller à l'épicerie. On ne va pas rentrer dans l'épicerie avec son bateau ou bien avec son avion ou bien avec sa voiture non plus.
Voilà. Quoique certains.
Alors, Piéton Québec s'attache à valoriser la marche comme mode de déplacement et la faire évoluer. Faire évoluer les lois, normes et pratiques afin d'améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec. Voilà, donc, dans un esprit de collaboration avec les acteurs du domaine, cette nouvelle organisation veut donner une voix spécifique aux piétons et devenir un acteur central pour leur mobilisation et leur concertation. Pour soutenir Piéton Québec et surtout faire entendre leurs idées et revendications, les citoyens qu'ils sont. Nous sommes tous Piéton Québec, hein. Engagés, piétons, engagés, oui, ou occasionnels, peuvent devenir membres de l'organisation dès aujourd'hui. Allez, vous allez sur le site là-bas, piéton.québec, comment devenir membre. Et puis bon, ben c'est parti, quoi. Vous pouvez essayer de sensibiliser un peu, et comment dirais-je aussi, les chauffards, si je me permets du mot. Oui, pourquoi pas, parce qu'il y a pas mal de chauffards ici. La plupart des gens qui meurent ici aussi, c'est des personnes âgées qui traversent difficilement, moins rapidement que les jeunes gens, les jeunes personnes, les rues, les trottoirs, voilà. Piéton Québec demande à la population et aux élus de rendre les routes sécuritaires pour tous, Arlette. Voilà, ils ont une très grande demande. Hein. Et puis, déterminer enfin, voir les statistiques s'améliorer, Piéton Québec lance une campagne nationale pour changer la culture routière et influencer les usagers de la route à adopter des comportements plus sécuritaires à l'égard des usagers les plus vulnérables, nous autres. Piétons. Voilà. Donc, avec toute la nouvelle campagne pour l'automne, là, c'est tous piétons. Hein. Ça, oui. Le titre dit tous piétons. Sous la thématique à quel pied ? À pied, nous n'avons pas d'armure. Il dit à pied, nous n'avons pas d'armure. L'organisation souhaite sensibiliser la population et les décideurs publics aux avancées qui restent à faire pour prendre les routes sécuritaires pour tout le monde. Oui. Et pour une troisième année consécutive, plus de 70% ont perdu la vie en marchant, tout simplement. À chaque deux jours, un piéton a été gravement blessé lors d'une collision, bouleversant ainsi sa vie et celle de ses proches.
Oui, protéger les piétons, puis peut-être aussi faire un permis à voir si régulièrement les gens savent bien conduire. Ils n'ont pas oublié leur permis. Ils n'ont pas oublié ce qu'ils ont appris pour avoir leur permis.
Oui, oui, oui. Parce que, comme on disait, toi et moi, tout le monde est piéton quelque part. On n'est pas toujours en véhicule, on n'est pas toujours à vélo ou bien sur sa moto ou bien sur l'eau ou bien dans son bateau. Quoi. Donc, la campagne Tous piétons 2020-2021 est rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports par l'entremise du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Voilà. Tous piétons. Voilà, ça c'est aussi. Tous piétons. Québec, en un seul mot, hein. Ou bien Québec, piéton.québec, c'est, vous allez tomber sur le même site là-bas et puis avoir de toutes les informations nécessaires afin que...
Je ne sais pas, je ne conduis pas, mais je ne trouvais pas qu'ici à Montréal ou dans le Québec, je ne trouvais pas que les gens roulaient très très vite comme des fous, rarement. Ah bon? J'avais l'impression qu'ils roulaient plutôt bien, mais peut-être que je me trompe.
Ouais, moi qui suis la plupart du temps aussi.
Ouais,
je sais comment les gens, il y a des gens qui tournent même sans clignoter, ils jettent même pas un petit coup d'œil pour savoir s'il y a un piéton ou bien ils vont essayer de couper avant le.
Autant pour moi, devant le piéton.
Quand tu conduis, tu vois un peu l'erreur que les autres conducteurs font vis-à-vis des cyclistes et des piétons aussi.
Okay.
Bon, bien sûr, il y a des cyclistes délinquants, il y a des piétons aussi qui passent au vert, il y a le vert et puis. Mais il faut faire très attention quand on est au volant d'une voiture ou bien quand on est à vélo, il faut faire attention aux piétons aussi. Alors c'est là où je veux en venir. Et quand on dit 70 personnes ont perdu la vie en marchant, tout simplement, chaque deux jours, un piéton a été gravement blessé, c'est quand même...
C'est énorme.
C'est un chiffre très élevé. Ça, j'aimerais pas être à la place de ces gens parce qu'en fin de compte, tu te dis, où est-ce qu'on va avec tout ça? J'aime bien cet organisme. Donc, cet automne, Piéton Québec lance cette nouvelle campagne « Tous piétons », voilà. Avant la thématique à pied, nous n'avons pas d'armée, nous souhaitons changer la culture. Et puis, lancement en septembre 2020, c'est déjà fait, la campagne Tous piétons a été déployée dans 11 régions tout au long de l'automne. Au programme, il y a les activités de sensibilisation pour mobiliser les piétons de l'Outaouais jusqu'au Saguenay.
Oui.
Des outils éducatifs et ludiques pour faire de la sécurité piétonne une priorité pour tout le monde, tous les citoyens du Québec, et une campagne publicitaire nationale sur toutes les plateformes Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, arlette.com, tout.
Même ça
m'a passé aussi. Comment tu trouves l'idée de ces gens qui sont derrière
Je trouve que c'est bien, il faut savoir protéger les piétons, il faut savoir se rendre calme. Moi, je trouvais juste, mais je ne conduis pas au Québec, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus.
Oui.
Je trouvais juste que dans la rue, il n'y avait pas quand même... j'entends des coups de klaxon, mais je ne trouvais pas que les gens étaient... pour avoir conduit en France et avoir vu une conduite un peu sportive dans certaines villes, je trouvais qu'ici se retournait... Il n'y a pas que Marseille, il y a Lyon, il y a Paris. Ça fait peur.
Oui.
Donc il me semble que je n'aurais pas peur de conduire, mais je ne sais pas. Voilà.
Non, il y a pas mal de chauffeurs. Il y a des gens qui font peur. Ils ne donnent pas la priorité aux piétons et aux autres.
Alors, allez-y simplement. On va faire très attention.
Voilà, allez simplement sur le site touspiéton.québec ou bien piéton.québec. Vous allez tomber là-bas sur le site et avoir toutes les informations nécessaires.
Faites attention à nous qui marchons.
Allô? Leur vie comme leur mort. Il y a aussi l'eau verte des lagunes. Même noyée, je n'aurai jamais cette couleur-là. Pour penser à toi, j'ai déposé tous mes maux au mont de piété, un fleuve de traîneaux, de baigneuses, dans le courant de la journée, blonde comme le pain et l'alcool de tes seins. Allô, allô, je voudrais être à l'envers clair de la terre, le bout de tes seins à la couleur et le goût de cette terre-là. Allô, allô, encore une nuit, il y a la pluie et ses doigts de fossoyeur. Il y a la pluie qui met ses pieds dans le plat. Sur les toits, la pluie a mangé le soleil avec des baguettes de chinois. Allô, allô, l'accroissement du cristal, c'est toi. C'est toi, eau absente dans le vent et baigneuse de lombrique. Viendra l'aube, c'est toi qui poindras tes yeux de rivière sur les mailles bougées des îles. Et dans ma tête, c'est toi, le maguet éblouissant d'un ressac d'aigle sous le banyan.
Alors là, on vient d'entendre Arthur H., Nicolas Repac, dans une chanson qui est sur un texte du poète Aimé Césaire, « Le cristal automatique ». Voilà, on peut trouver ce poème, me disait Maurice tout à l'heure, dans un livre qui s'appelle « Le livre d'or noir », c'est ça ? Le disque ? D'or noir, où il y a plusieurs textes de plusieurs poètes là-dedans, donc de poètes noirs. Donc là, vous avez entendu le cristal automatique. Alors maintenant, je vais vous parler de la célèbre grotte de Lascaux. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent la grotte de Lascaux ? Il faut savoir qu'il y a exactement 80 ans, le 12 septembre 1940, l'aventure de quatre ados débouche sur la mise au jour d'un des trésors de l'humanité, la célèbre grotte de Lascaux. Le dernier de ces quatre copains, qui était âgé à l'époque entre 13 et 18 ans, Simon Coencas, est décédé le 2 février 2020 à l'âge de 93 ans. Avec Marcel Ravida, Georges Agniel et Jacques Marsal, il avait découvert la grotte de Lascaux en explorant un trou sur une colline dominant le village de Montignac en Dordogne, une très très belle région de France. Si jamais vous avez des vacances à prendre, allez voir la Dordogne. Il faut savoir que si le site est désormais inaccessible au public, il y a une version moderne, un facsimilé de la grotte qui a été inaugurée en 2016. C'est une colline qui n'est pas très haute, elle fait 215 mètres d'altitude et elle s'étire sur 2 km, donc c'est pas très long. Le long de la rivière la Vézère, il y a plein de châtaigniers, de grands pins. On peut ramasser des champignons là-bas, pour les amateurs. Pourtant, cette colline si belle n'a rien d'ordinaire. Ces entrailles de calcaire, qui ont été façonnées il y a des millions d'années, recèlent en effet l'un des trésors de l'humanité, la célèbre grotte de Lascaux. C'est un genre de chapelle Sixtine, 17 fois millénaire, où les occupants du paléolithique ont fait courir sur la roche. Alors, ce qui est dessiné, ce sont des troupeaux d'aurochs, les taureaux d'avant, de bouquetins, de bisons, de cervidés, de chevaux. Il y a 600 peintures, 400 signes géométriques et 1500 gravures. C'est absolument extraordinaire. En décembre 2016, le site a connu une agitation toute particulière. Un nouveau facsimilé des célèbres peintures, le troisième, à destination des touristes du monde entier, a ouvert ses portes. Son objectif, soulager la colline d'une trop grande affluence qui menace toujours la grotte d'origine qui est fermée au public depuis 1963. Voilà. Car les experts se sont rendus compte que les aménagements qui avaient été nécessaires à l'accueil des 270 000 visiteurs annuels de Lascaux. 270 000, ça fait quand même un certain nombre. À leur tour, à force de passer, ils ont fragilisé le site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et il était urgent et impératif de contourner tout ça. Donc, Lascaux 4 a été bâti en lisière de la petite cité périgourdine de Montignac pour cantonner les voitures, les cars et les visiteurs le plus loin possible. La colline est désormais sanctuarisée. Une décision qui doit beaucoup à la création en 2010 du comité scientifique de la grotte de Lascaux dirigé par Yves Coppens, le spécialiste de Coppens, je ne sais plus comment on dit son nom, le spécialiste de l'évolution humaine dont on a beaucoup parlé à une époque. Pour comprendre les enjeux, il faut se rappeler qu'au début des années 2000, il y a des moisissures blanches associées à de la bactérie qui ont envahi la salle d'entrée puis les galeries. Et aucun traitement n'en venait à bout. Puis il y a eu des champignons qui ont fait leur apparition à leur tour. La communauté vivait un cauchemar. Il leur semblait que c'était le même cauchemar que celui des 1960, en 1963, où les parois avaient été attaquées par des algues vertes qui étaient engendrées par nous, par le gaz carbonique qu'on rejette. C'est-à-dire on respire, on souffle, et quand on souffle, on rejette du gaz carbonique, et c'est ce qui avait abîmé les parois. Tu te rends compte ? Et ça avait conduit donc à la fermeture de la grotte en 63. Donc, l'hebdomadaire américain Times avait fait alors planer la menace d'une possible inscription de la grotte de Lascaux sur la liste des sites du patrimoine en péril de l'UNESCO.
Pour qu'il n'y ait plus de visites, voilà. De groupes touristiques.
Mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait autre chose. Donc, c'est cet électrochoc de ce moment-là, ça a débouché sur la création du comité scientifique. Donc, après ça, le changement a été total. Plus question pour Yves Coppens, en collaboration avec la conservatrice Muriel Mauriac, de considérer la grotte comme un isolat. C'est désormais la colline dans son entier. Parce qu'en fait, au départ, quand les enfants avaient découvert un petit peu cette grotte, il y a eu des travaux qui ont été faits. Ils cherchaient l'entrée, donc il y a eu plein de trous qui ont été faits à côté. Donc, ça a abîmé l'ensemble de l'écosystème. Donc, là, ils sont en train d'étudier avec des archéologues, des géologues, des microbiologistes, des hydrogéologues, pédologues et climatologues.
Oui, c'est ce que je voulais te demander. Où ils en sont maintenant? Quelles sont les décisions qui ont été prises?
Qui sont spécialistes des milieux souterrains. Il fallait sortir de la drogue. Oui, il faut aussi sortir de la drogue. Il fallait sortir de la grotte pour comprendre ce qui s'y passe, étudier la colline, la terre, l'eau et la végétation. Donc, depuis 2013, les programmes se succèdent. Il y en a un qui est chapeauté par Laurent Bruxelles, géomorphologue, qui dit aussi qu'en moins d'un siècle, la cavité et son environnement ont été plus déséquilibrés qu'en 17 000 ans auparavant. Et là maintenant, depuis le 15 décembre 2016, Lascaux 4, le nouveau centre international de l'art pariétal, a ouvert ses portes en lisière de la petite cité périgourdine de Montignac. C'est un élégant bâtiment blanc, semi-enterré, où on présente l'intégralité des chefs-d'œuvre des chasseurs magdaléniens, 575 mètres carrés de peinture et gravure de Lascaux 4 ont été reproduites strictement à l'identique. Ce clone a été reconstitué dans un monde souterrain où ils ont même reconstitué les conditions d'éclairage d'il y a 20 000 ans ainsi que l'odeur des pierres. Un challenge technologique scientifique de plus de 57 millions d'euros. Aïe, 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 sur un chantier hors norme de 8800 mètres carrés. Ça comprendra d'autres pôles, 4 salles supplémentaires qui permettront aux visiteurs, grâce à l'usage d'équipements interactifs, de compléter leurs connaissances. Voilà, des visites virtuelles d'autres grottes. Enfin, il va y avoir plein de choses. Allez les voir parce que ça a l'air d'être magnifique. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus.
Oui, excuse-moi, j'ai une petite question.
Oui.
C'est pas là les fameuses grottes de Lascaux qui, à un moment donné, il y a des scouts qui voulaient peinturer, qui voulaient faire du ménage, non? C'est pas ces grottes-là. Ça, à un moment donné, dans l'histoire, j'ai déjà entendu ça. Des gens qui étaient tombés, un groupe de scouts qui étaient tombés dans des grottes, puis le moniteur avait dit bon, faut nettoyer ça, puis effacez-moi ça.
c'est
pas la scout, ça veut dire qu'ils ont effacé.
C'est fort possible, mais là, de toute façon, je sais pas si c'est là, mais parce que là, c'est fermé quand même depuis 1963. Et là,
j'ai déjà entendu cette histoire-là, je sais pas.
De toute façon, ça m'étonnerait pas, c'est tout à fait plausible.
De toutes les façons, partout où nous on passe, nous les humains, on gaspille tout.
C'est des souvenirs, c'est la vie. C'est la vie de voir tout ça, donc c'est très important. Vraiment, écoutez, il faut aller voir ça parce que là, ce qu'ils ont réussi à faire, là, à reproduire, c'est extraordinaire. Vraiment, allez voir ça. Les œuvres de la préhistoire.
Ouais, moi, c'est surtout l'odeur de la pierre qu'ils ont reproduit.
C'est absolument fascinant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec ce qui a été fait il y a 17 000 ans. Wow, magique.
Des restaurateurs, oui. Non, c'est des spécialistes, hein. C'est des restaurateurs, c'est des gens qui... C'est du travail de minutieux, c'est des gens qui...
Voilà, en parlant de magie, on va partir en musique avec un personnage que j'adore et toi aussi, c'est Abdelmalik, qui nous chante Le Fakir.
Il balaie d'un revers de main le néant d'une vie en invoquant son propre mythe. Il essuie tous les parterres qu'il foule lui-même en faisant dire à chacun de ses souffles « je t'aime ». Il récuse le fait d'être lui, car s'il est ivre, il est sobre aussi le fakir. Il travaille pour ce monde comme s'il allait vivre toujours et pour l'autre, comme s'il allait mourir demain. Il corrige les défauts enfouis au tréfonds de lui-même et se détourne du voile des mystères. Il chemine sur cette voie qui discrimine, qui détermine celle qui était déjà là avant même qu'il ne se détermine le fakir. Il médite, ferme les paupières sur l'œil de chair et scrute avec l'œil du cœur.
Il réfléchit sur tout ce qui image, réfléchit sa propre image. Il eureka, il s'écrit de toi à toi, ô messager de celui qui voit le fakir. Il observe la beauté en toute chose, en toute chose. Il est d'abord ébloui par cet astre qui illumine les nuits. Puis il regarde fixe ce soleil qui ne se couche pas, parce que tout change, rien ne change. Le fakir. Dans l'éternelle jeunesse, il voyage dans la vie comme l'étranger qui traverse la ville. Il ne s'arrête nulle part parce que chez lui est tellement de ce monde, le fakir. Il ne se réjouit pas d'une bonne œuvre qu'il aurait accomplie, il se réjouit de sa bonne action comme une faveur qu'on lui aurait accordée. Il se réjouit d'être l'humble, d'être le simple, le fakir. Il ne reproche et ne fait de reproche qu'à lui-même. Il ne s'accroche qu'à ceux qui ont le bien, le bon et la beauté comme proches. Il s'approche, se rapproche par la force de l'amour, le fakir. Il est aimé, il devient lui, le regard, la main et le pied. Il est dans tout ce qui émane de son cœur exaucé. Il est protégé par ce qu'il y a de plus élevé. Le fakir.
On est à la fin. Ah, on a fini, non?
Ben oui, on a fini. Jeudi,
on est à la fin de l'émission.
Voilà, on est à la fin de l'émission.
Oui, ça va vite. On dit merci à Stéphane Waffaud.
À tout, bien sûr, merci d'être venu. Et merci d'avoir parlé foot, comme ça j'ai compris tout ce que
tu
as dit.
Ah, tu m'as surpris quand même en disant que tu n'aimes que le foot, tu n'aimes pas le tennis, toi.
Non, mais tout le monde n'est pas parfait. Et je ne le suis pas.
Ça n'a rien à voir avec être parfait.
Non. Pour retrouver les traces de science, c'est sur Science et Avenir que j'avais parlé des grottes de Lascaux. Donc il y a tout un historique là-dessus, si jamais vous voulez le retrouver.
C'est scienceavenir.com, c'est bien ça?
Voilà.
Voilà, merci à nos fidèles auditeurs. Et puis, merci Maurice.
Voilà. Merci Maurice.
Et puis, n'oubliez pas.
On se dit à demain, Fulgence.
Oui, on se dit à demain. Et puis, n'oublions pas. Hein, tous piétons, point.
Oui.
Voilà, tous piétons,
piétons,
ouais, piétons, point Québec. Allez-y, là, on va prendre toutes les informations.
Ok.
Prenez soin de vos minutes.
Bye bye.
Bye bye. Ciao.